Deuxième jour. Journal de bord. Aujourd'hui, nous avons repris notre voyage et de vertes prairies ont succédé aux terres céréalières. Comme indiqué par le propriétaire du bateau, nous avons hier au soir trouvé un point d'ancrage et nous y sommes amarrés sans difficulté. La nuit fut bonne. Je n'écrirai pas dans le journal de bord qu'un rêve affreux m'a sorti de mon sommeil au petit matin. Rêve qui nous voyait gens de la ville tirant après nous dans les rues des chevaux morts qui semblaient ne rien peser et glisser comme masse gélatineuse sur l'asphalte ou les pavés. Et comme nous n'allions nulle part, il arrivait à la longue que le flanc des bêtes se déchira et répandit guirlandes de tripailles qui s'entortillaient à nos pieds et entravaient notre avancée. Je ne t'en ai rien dit, bien sûr. Tu dormais paisiblement. Me suis juste blotti contre ton dos, arrimant mes mains à tes hanches pour m'éviter la chute. Tu as soupiré d'aise, et peut-être était-ce une invite à l'amour, mais je n'ai pas voulu déranger ton sommeil, d'autant que la vision des bêtes éventrées se dissipait mal dans ma tête, m'obligeant même à me lever, à m'asperger d'eau le visage et à m'ébrouer comme chien pour chasser l'horreur avec les gouttelettes. Une fine couche de brume flotte au-dessus du fleuve. La nuit n'est plus et les chevaux morts partis avec elle. J'apprécie l'instant et la beauté du jour. À ton réveil, quelque temps après, tu me dis « Écoute les oiseaux, comme chacun y va de son chant. On ne les comprend pas, mais tous nous disent la vie, et c'est là l'essentiel. » Comme pour donner poids à ton propos, un héron, juste sous nos yeux, traverse alors le fleuve de son vol lourd et je vois tes lèvres s'entr'ouvrir sur un murmure que je ne saisis pas et pourrais penser prière si je te savais proche de quelque dieu. Mais aussitôt tu souris, fillette espiègle, et me promets ce soir, oui ce soir, je les répéterai ces trois petits mots et tous les autres soirs ensuite, jusqu'à la mer si j'en ai la force. Il en est soudainement fini des cultures céréalières sur les deux rives du fleuve. Un simple chemin de terre marquant la limite entre orge ou blé et prairies ouvertes plantées ici et là de maigres bouquets d'arbres. Aucune présence humaine, pas non plus la moindre bête d'élevage. Pourtant rien qui évoque la négligence ou l'abandon, à croire que tous dorment encore ou que la vie pour l'heure se joue dans un autre décor. À ce propos, tu me reprends la vie ou la mort, précises-tu. Et sans que je comprenne bien les détours de ta pensée, tu me rappelles l'histoire de cet homme qui en massacra sept autres, dont trois enfants, par haine ou coup de folie. C'était juste avant notre départ. Le fait t'avait bouleversé, car tu plaignais ceux-là qui n'avaient pas eu le temps de se préparer à mourir, ceux-là qui peut-être n'avaient jamais envisagé de mourir et qui avaient entamé un jour sans se douter qu'ils n'en verraient pas la fin. Souviens-toi aussi de Franck et d'Aïcha, ajoutes-tu, et je t'en veux de les mentionner, car ils appartiennent à un autre temps. Toi-même, n'as-tu pas dit qu'il nous fallait vivre au présent, ici et maintenant, au jour le jour sur le fleuve qui porte notre bateau? Ne pas être pressé d'arriver quelque part, dit Lydia Flemme. Être là où l'on est, rien chercher d'autre. J'ai noté la citation dans le carnet bleu. Plus tard pourtant, mais ça n'a rien de comparable, du moins rien qui endeuille l'instant, tu évoques ton enfance, entre parents de la terre et au sein d'une fratrie de sept. Oh, nous ne vivons pas malheureux, juste repliés sur ce que nous pensions être le monde et qui n'était qu'un patchwork de prairies comme celle-ci, mieux lotis en fruitiers, avec divers animaux, dont une jument blanche, à propos de laquelle ma mère aimait à raconter qu'elle était licorne dans une vie antérieure, mais que le péché d'orgueil lui avait coûté sa corne magique. Te dire après ça que nous avons les uns après les autres quitté les prairies familiales avec un trop-plein d'humilité dans nos bagages et une vigilance absolue à traverser la vie sans faire de vagues. Heureusement pour nous, il s'est vite avéré non seulement que l'herbe était moins verte en face, mais que souvent le bitume la recouvrait. Ainsi avons-nous pu découvrir la ville avec un regard vierge et appris au fil des jours à y déployer nos ailes. C'est dans les livres ensuite, et surtout dans la poésie, que nous avons retrouvé la magie des licornes. Tu as beaucoup parlé. La voix commence à te manquer. Je t'invite à te reposer un moment. Je reviendrai à ton côté plus tard. Pour l'heure, il faut que je reprenne la barre, car notre bateau a légèrement dévié de sa trajectoire vers la berge à main droite. On dit tribord, je crois. Malgré la température encore douce, je replie les deux pans du plaid sur ton corps fatigué. Nous vivons sans heure, me dis-je, mais vivons-nous encore? Du fait que tu les as mentionnés, je repense à Franck et Aïcha, qui nourrissaient l'un et l'autre de beaux projets que le destin a fracassés en même temps que leurs os. Elle dans la carlingue d'un avion au décollage, lui sous les roues d'un camion au matin du 1er janvier. Quelque chose allait commencer qui ne prendrait jamais forme. Personne n'attendait plus personne dans l'aéroport d'Abidjan. L'année nouvelle qu'on s'était souhaitée bonne et heureuse avortait dès les premières heures. Nous, au moins, disais-tu, avons la chance et le temps de descendre le fleuve. Parler d'injustice à ce propos, ajoutais-tu, présupposerait l'existence d'une autorité suprême qui aurait sur nous pouvoir de vie et de mort. Je n'y crois pas. Moi non plus, te dis-je. Je n'y crois pas. Aussi invoquons-nous le destin. Toutefois, si le tien est de partir plus tôt que prévu, encore que cela ne signifie rien. Disons à un âge où certains apprennent à tuer le temps faute de savoir vivre autrement que sur les contraintes jusque-là imposées. Qu'en est-il du mien? Quel que soit l'angle sous lequel j'aborde la question, aucune réponse ne me vient. Aucune image ne s'impose qui me contiendrait. Comme si je n'existais pas, ou pas encore, me corrigerais-tu, au-delà du terme de ce voyage. Nous approchons d'un pont, le premier depuis notre départ, dont les trois arches se reflètent presque à l'identique dans le fleuve, créant l'illusion de trouées sombres sur la surface de l'eau. Attention de ne pas s'y abîmer, me dis-je, mais les éviter reviendrait à s'encastrer contre l'une des piles de l'ouvrage. Au passage, réflexe puéril, je ne peux m'empêcher de lancer ma voix afin que l'écho me la retourne, ce qui te fait sourire. N'en oublie pas de regarder les fleurs, me dis-tu. Et j'en découvre alors une multitude, roses, blanches ou violettes, minuscules, enracinées par bouquets entre les interstices des pierres d'épines. La vie encore, me souffles-tu, et je reprends tes mots à voix forte pour le plaisir répété de l'écho. Mais alors que je croyais avoir parlé, celui-ci me renvoie un cri. Dans le carnet bleu, ce poème de Ludovic Janvier que tu as recopié de ton écriture mal assurée. Notre vie ressemble à dormir. On y rêve qu'il fait beau. De temps à autre, une peur casse tout de son orage. Sans rien faire, nous attendons que la gloire nous couronne. Les jours passent, rien ne vient. Mourir va nous laisser sans voix, seul à seul avec la musique. Tu te souviens, me dis-tu, ces trois petits mots que j'ai promis de te répéter. Oh, rien de plus simple, et pourtant l'essentiel y est contenu. J'aimerais avoir la force de les redire tous les soirs. Merci, la vie.